Chapitre 2. Clara. Moins d'une heure plus tard, Clara et les siens se rendaient chez Drosselmeyer en carrosse. La jeune fille observait les rafales de neige qui s'accumulaient contre la vitre de sa portière. Le véhicule croisa un groupe d'adolescents qui interprétaient des chants de Noël pour une mère et sa fillette, devant une maison. Personne d'autre que Clara n'aurait remarqué le geste, mais la mère caressa avec amour les cheveux de sa fille. Clara poussa un soupir avant de reporter son attention sur le petit coffret en forme d'œuf posé sur ses cuisses. Malgré les soubresauts du carrosse, les froufrous de sa robe lavande maintenaient en place le précieux objet. Louise avait prêté à sa sœur une de ses plus belles toilettes. Elle l'avait également coiffée à la perfection. Clara se tapota le côté de la tête. La sensation était différente de lorsque sa mère la coiffait. Les épingles la serraient un peu trop. De plus, ses pieds étaient engoncés dans les escarpins que Louise lui avait imposés. Quand sa mère l'aidait à s'apprêter pour le bal de Drosselmeyer, elle lui démêlait toujours les cheveux avec délicatesse. Et elle lui laissait porter, sans le révéler à personne, des souliers déjà faits, de sorte à éviter les ampoules. Lorsque Clara lui demandait si elle la trouvait jolie, sa mère lui répondait immanquablement. « Et bien sûr, mon petit génie, tu es aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. » Clara aurait donné beaucoup pour retrouver le réconfort auprès de sa mère, et de ses mains à la fois caressantes et fermes, dignes d'une vraie créatrice. Au lieu de cela, elle en était réduite à serrer fort la petite pochette à outils qu'elle avait emportée en secret. Elle en retira une paire de pincettes avec laquelle elle tenta à nouveau de forcer la serrure de l'œuf. « Clara ?» la repéra aussitôt Louise. « Tu vas au bal avec des outils ?»« Il me les faut pour ouvrir cet œuf. » répondit l'intéressée en enfonçant la pointe d'une lame dans le trou de la serrure. En vain. Clara présenta l'objet à la lumière d'un réverbère de la rue. Ce n'est qu'alors qu'elle remarqua la lettre D, gravée sur la base de l'œuf. Drosselmeyer, sa signature ? S'étouffa la fille. Si son parrain était bien le créateur de cet objet, il possédait sûrement la clé pour l'ouvrir. Nous sommes arrivés ! Annonça tout à coup Louise. Les trois enfants passèrent la tête par la vitre d'une portière pour découvrir le spectacle majestueux du manoir de Drosselmeyer décoré pour les fêtes. Les tours de la demeure étaient drapées de riches guirlandes qui couraient des balcons jusqu'au sol. Aux fenêtres, on apercevait les teintes chaudes produites par les feux de cheminée. Des lampions chinois rouges et or illuminaient l'allée conduisant à la grille de la propriété. Grille ornée de la signature du maître des lieux, un grand D. La neige avait cessé. La végétation était recouverte de cristaux de glace scintillants. On se serait cru dans un conte de fées. Clara ne s'étonnait plus que sa mère ait eu une imagination si débordante après avoir grandi dans un lieu pareil. Comme elle aimait le faire tous les ans, la jeune fille contempla la dizaine de cheminées alignées sur les toits. Chacune crachait de la fumée, signe que le cœur de la maison battait telle une machine à l'œuvre. Le carrosse s'arrêta devant la grille du manoir. Aucun domestique n'attendait là. Pourtant, le portail s'ouvrit de lui-même. « Regardez !» s'émerveilla Fritz. « Comment est-ce possible ?»« Simple question de pneumatique, » lui expliqua Clara. « De quoi ?»« Tu vois cette machine là-bas ? Elle est reliée à ces bras mécaniques qui contrôlent les charnières du portail. En passant sur une plaque située devant le portail, le carrosse a activé le mécanisme. « C'est de la magie !» s'extasia Fritz. « Ça alors, Clara ?» embraya Louise. « Mais d'où sors-tu tout cela ?» Clara s'apprêtait à répondre qu'elle avait appris tout cela dans un des livres de Drosselmeyer. Mais la discussion s'interrompit lorsque la petite famille pénétra dans le manoir. La décoration pouvait se résumer en un mot. Éclectisme. Les murs au ton rouge vif étaient rehaussés de feuilles d'or et de merveilles rapportées de ses voyages autour du monde par Drosselmeyer. Tapisseries des Indes, poteries d'Afrique, étoffes de Chine. Des dragons de jade s'exposaient dans des vitrines, tandis que d'antiques parchemins ornaient bureaux et alcôves. L'entrée de la demeure elle-même constituait un véritable musée, en même temps qu'un cabinet de curiosités. Le tout formait un mélange enchanteur de trésors internationaux et d'esprit de Noël. Des domestiques vinrent prendre les manteaux des Stahlbaum. Manteaux qu'ils suspendirent à des cintres accrochés à une bande roulante, le mécanisme s'enclencha et transporta les vêtements dans une pièce adjacente.
« Incroyable !» souffla Fritz.
Des valets gantés de blanc, postés aux portes de la salle de bal, annonçaient les noms des visiteurs à leur arrivée. La plupart étaient déjà là, dans leurs plus beaux atours.
La salle bruissait de conversations et de danses. Des serviteurs proposaient champagne et petits fours sur des plateaux en or. Les enfants éclatèrent de rire lorsqu'un traîneau mécanique, chargé de présents, s'ébroua, tiré par 8 rennes eux aussi mécaniques. Au centre de la pièce trônait un immense sapin paré de rouge et d'or. Unique source de lumière de la salle, il brillait plus fort qu'un chandelier à 1000 becs de gaz. « C'est à couper le souffle », murmura M. Stahlbaum. Drosselmeyer s'est une fois de plus surpassé. « Tu l'as vu ?» demanda discrètement Clara à Fritz, tout en inspectant les lieux. « Qui ça, Drosselmeyer ?» voulut clarifier son cadet. « Non. Attends, ce ne serait pas lui, là ?» Du doigt, il désignait un homme grand à la tignasse grise frisée qui fendait la foule. « Si, tu as raison », confirma Clara. Sur ce, elle s'éloigna des siens, se fraya un chemin entre les domestiques et les invités. Tout juste entendit-elle les serviteurs annoncer les noms de son père, sa sœur, son frère et elle-même. Elle n'avait pas de temps à perdre. Elle était en mission. Une mission confiée par sa mère. Quelques autres lui adressèrent des regards désapprobateurs lorsqu'elle leur marcha par mégarde sur les pieds, pour enfin rejoindre le grand grisonnant. « Parrain ?» l'interpella-t-elle en lui touchant le bras. L'homme pivota sur lui-même et Clara tomba de haut. Elle avait devant elle un invité au visage rougeau, affublé d'un postiche mal fixé, qui, à la lueur des bougies, évoquait la chevelure de Drosselmeyer. Mais ça n'était pas lui. « Oh, je vous demande pardon !» s'excusa Clara. L'inconnu la dévisagea d'un œil interrogateur avant de s'éloigner. La jeune fille poussa un soupir. Cela ne ressemblait pas à son parrain d'être ainsi absent des réjouissances. Lui qui agissait toujours en hôte gracieux, généreux dans ses anecdotes de voyage. Où pouvait-il bien être ? Clara s'apprêtait à reprendre les recherches, quand soudain, une voix retentit dans son dos. « M'accordez-vous cette danse ?» Clara se retourna. C'était son père. « Je danse comme une oie, papa », affirma-t-elle. Et elle ne mentait pas. Clara adorait certes la musique, mais lorsqu'il s'agissait de danser, elle avait deux pieds gauches. « Moi aussi », sourit M. Stahlbaum. « Comme ça, nous serons assortis ?» Sa fille hésitait encore. « S'il te plaît », insista l'homme. « Rien qu'une valse. C'est Noël, après tout. » Clara finit par céder. Elle accepta la main que lui tendait son père et se laissa guider vers la piste de danse. Mais sitôt que le quatuor à cordes attaqua une nouvelle valse, elle sentit sa poitrine se serrer de nouveau. Cet air était trop familier, trop envoûtant, trop beau, trop tout. C'était la valse préférée de sa mère. En une fraction de seconde, Clara n'eut plus envie de participer à ce bal. Tout le monde faisait comme si de rien n'était. Or, ce n'était pas le cas. Sa mère n'était plus là. Comment pouvait-il prendre du bon temps sans elle ? Clara quitta son père et se précipita vers le premier escalier venu. « Clara, ma belle, attends !» l'implora M. Stahlbaum. Mais la jeune fille n'en fit rien. Elle devait, coûte que coûte, découvrir ce que sa mère lui avait légué dans ce petit coffret en forme d'œuf. Elle navigua entre les robes bouffantes des dames et les élégants costumes des messieurs et gravit les marches jusqu'à atteindre le balcon qui surplombait la salle de bal. Là, elle prit à gauche, franchit une double porte derrière laquelle elle croisa encore quelques invités, avant enfin de parvenir à la bibliothèque. Elle s'appuya contre le mur dans un long soupir de soulagement. « Inspire, expire », s'exhortait-elle. La peine ressentie aux premières notes de la valse préférée de sa mère s'apaisa. Sa poitrine se décrispa. Il n'y avait personne ici. Clara était seule. Une chouette, perché sur le dossier d'un majestueux fauteuil, dans un coin de la pièce, lui adressa un ululement. Ses yeux jaunes luisaient dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre voisine. Clara observa le volatile avec curiosité, avant de se diriger vers une double porte et pénétrer dans ce qu'elle considérait comme la plus extraordinaire pièce de ce manoir, l'atelier de Drosselmeyer. « Parrain ? » lança-t-elle. Les voix des invités n'étaient qu'un écho lointain, étouffé par le bruit des inventions qui ronronnaient et cliquetaient dans l'atelier. Les rouages tournaient, les pistons pompaient, babioles et souvenirs rapportés des quatre coins du monde s'amoncelaient par groupes. Clara s'était toujours sentie en sécurité ici, au milieu des machines bien huilées, dans le bourdonnement des engrenages. Ici, tout était logique. La chouette ulula de nouveau en passant au-dessus de Clara. Elle se posa sur un établi, à l'autre bout de la salle où un homme impeccablement vêtu, au teint foncé et aux cheveux gris ébouriffés, travaillait, assis. Celui-ci leva les yeux en direction de la chouette, puis son regard trouva Clara, qui approchait. Il sourit. Il avait un œil bandé, mais l'autre, marron profond, exprimait toute la gentillesse du monde. « Bonsoir, Clara, » salua-t-il sa visiteuse. « J'espérais bien que tu me rejoindrais. Ce projet me donne du fil à retordre. » Aussitôt, il lui montra une maquette en or représentant un lac, surmonté par deux signes en céramique blanc. Sous la surface, un mécanisme complexe était censé faire évoluer les signes. Hélas, quand Drosselmeyer actionna l'interrupteur, les volatiles partirent en marche arrière. « Il suffit sûrement d'inverser le mécanisme ?» proposa Clara. « C'est ce que je m'efforce de faire, ma chère, » abonda son parrain. « Mais figure-toi que pas un seul de mes 200 invités n'a songé à apporter un tournevis à pointe en étoile. » Clara farfouilla dans sa poche à outils et produisit bientôt le tournevis demandé. « Je savais que je pouvais compter sur toi, » sourit Drosselmeyer. « Je t'en prie, essaie. Moi, de toute façon, j'ai les mains trop grosses. » L'homme remit la maquette à sa filleule, qui entreprit immédiatement de modifier le mécanisme. Quelques instants plus tard, elle annonçait « Il n'y a plus qu'à tester ?» Drosselmeyer actionna de nouveau l'interrupteur et cette fois, les signes partirent dans le bon sens. « Ce petit génie » applaudit-il. « Tu me rappelles quelqu'un. » Clara ne put retenir un sourire. Son parrain était de ces professeurs qui vous donnaient toujours envie de les rendre fiers de vous. « Et maintenant, jeune fille, » enchaîna-t-il, « dis-moi un peu pourquoi tu ne profites pas de ma réception. J'ai besoin de votre aide, parrain. Pour ceci. » Ces mots dits, elle présenta le coffret en forme d'œuf. Drosselmeyer en resta bouche bée. « fit-il. « Une de mes réalisations, oui. Je l'avais offerte à ta mère. Quand elle est venue vivre chez moi, je ne savais pas trop comment réagir face à cette petite orpheline. J'étais déjà un vieux monsieur. Alors j'ai fait appel à mes seules compétences. Je lui ai fabriqué cet œuf. » Drosselmeyer admirait l'objet comme s'il repensait à un lointain souvenir. Clara estimait qu'il revoyait en pensée ce fameux jour. Sa mère lui avait raconté cette histoire un nombre incalculable de fois. Ses parents avaient péri dans un incendie. Marie s'était présentée au manoir de Drosselmeyer avec pour tout bagage une vieille besace et une poupée. Et voilà qu'elle te l'a transmis, songea à voix haute l'homme. Intéressant, tu ne trouves pas? Elle ne m'a pas légué la clé, nuança Clara. Tiens donc, s'étonna Drosselmeyer en examinant la serrure. Modèle à goupille. Bien vu de ma part, ton tournevis ne t'aidera en rien ici. Je sais, confirma Clara d'une voix légèrement chevrotante. J'ai essayé. Drosselmeyer lut le désespoir sur le visage de l'enfant. Ses traits s'adoucirent. Elle doit te manquer terriblement, jugea-t-il. Clara ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête. Parfois, il est utile de parler, Clara, affirma Drosselmeyer en lui rendant son précieux œuf. Cela permet d'évacuer la tristesse. Et ton cœur peut ensuite guérir. Clara médita ses paroles tout en admirant l'ultime cadeau de Noël offert par sa mère. Si beau, si mystérieux. Bang ! La grande horloge du manoir venait de sonner. Elle enchaîna par une mélodie extraordinaire qu'aucune autre horloge ou pendule n'aurait pu produire. Drosselmeyer se leva. Le charme était rompu. « Je dois aller distribuer les cadeaux, » annonça-t-il. « Les invités vont s'impatienter. Veux-tu bien me faire l'honneur, ma chère enfant ?» Clara prit son parrain par le bras, et ensemble ils quittèrent l'atelier. En replongeant dans la célébration de Noël, Clara ne put s'empêcher de s'interroger. Qu'avait pensé sa mère, pauvre petite orpheline, en découvrant tout ceci pour la première fois? Avait-elle éprouvé de la joie? Du chagrin? De la curiosité? S'était-elle demandé, comme Clara se le demandait à présent, si Noël allait un jour retrouver sa magie?